Bonjour Thomas Cazenave.
Bonjour.
Nous sommes à Bordeaux, dans la salle de la station Ozone de la librairie Mola, où sont organisées des présentations d'ouvrages depuis de nombreuses années désormais. Tout le public bordelais présent aujourd'hui vous connaît naturellement, puisque vous êtes apparu sur la scène politique locale en 2018-2019, élu au sein de l'opposition au conseil municipal de Bordeaux et conseiller métropolitain depuis la fin juin 2020. Puis vous avez été élu député de la République depuis juin 2022, réélu sur la première circonscription de la Gironde le 7 juillet 2024, au soir du second tour des élections législatives consécutives à l'application de l'article 12 de la Constitution, fixant les dispositions de ce pouvoir non partagé par le président de la République, le droit de dissoudre l'Assemblée nationale. Pour les non-girondins qui nous regardent, et il y en a beaucoup, vous êtes également une personnalité très connue, puisque vous avez été ministre en charge, on dit ministre délégué chargé des comptes publics, pendant un an, deux mois et un jour, entre le 20 juillet 2023 et le 21 septembre 2024. Alors, je suis très précis, car je connais votre attachement fort louable à la précision des chiffres et des nombres. Je vais, malgré cette notoriété tout à fait établie, rappeler en quelques mots votre parcours universitaire et très sommairement votre trajectoire professionnelle à laquelle vous faites référence à plusieurs reprises dans votre ouvrage, à titre en particulier d'illustration de votre expérience dans tel ou tel domaine. Votre parcours, c'est un bel exemple de la méritocratie républicaine et je me permettrai de le qualifier de brillant. Vous êtes né à Bordeaux le 6 mars 1978, à six jours du premier tour d'élections législatives, qui s'annonçait très périlleuse pour la majorité présidentielle giscardienne d'alors, et que la gauche a perdu par sa division. Comme quoi il est souvent préférable en matière électorale de pratiquer l'union et pas le cavalier seul, même si, comme il se disait déjà à l'époque, à gauche, dans les années 70, l'union est un combat, rien de nouveau sous le soleil, comme dit le sage ecclésiaste. Page 154, vous parlez de vous et de vos origines, je vous cite. J'ai grandi à Bordeaux, issu de la classe moyenne et scolarisé dans un des lycées avec les moins bons résultats de la ville. Comme beaucoup de jeunes dans ma situation, j'ai hésité, puis renoncé d'abord à choisir la voie la plus sélective, celle des classes préparatoires, de peur de ne pas être à la hauteur. Finalement, vous avez choisi une classe préparatoire que vous avez trouvée. J'ai toujours considéré que rien ne me prédestinait à pouvoir intégrer les écoles les plus prestigieuses, et qu'il aura fallu une dose de chance pour que j'échappe aux forces des déterminismes sociaux qui restent prégnants dans les choix d'orientation. Fin de citation. Donc, école normale supérieure, que l'on dit, on a vérifié ensemble de Saclay, mais c'était à l'époque où vous l'avez fait, Cachan. Agrégation d'économie-gestion, master d'analyse économique à la prestigieuse école d'économie de Paris, admis à l'ENA en 2005, promotion République. ENA, dont vous nous dites, page 160, que vous n'étiez pas partisan de sa suppression, mais dont vous avez très vite compris qu'elle souffrait d'un trop fort déterminisme social. Et malgré cela, malgré ce problème du déterminisme social, vous sortez dans la botte de l'école. Alors, pour les initiés, c'est dans les 10 premiers, à peu près, hein, et vous rejoignez le corps prestigieux de l'inspection des finances, ce qui vous fait un point commun avec Alain Juppé. J'allais dire un premier point commun. Vous êtes ce que l'on appelait jadis un grand commis de l'État, puisque vous avez servi dans la haute administration, dans les cabinets ministériels et même cabinet présidentiel, et dans des institutions satellites de l'État, à chaque fois des niveaux de direction. Vous rapportez dans votre introduction, page 10, que vos préparateurs au fameux grand oral du concours d'entrée à l'ENA, je vous cite, vous recommandez de ne jamais y parler de votre goût de l'intérêt général. Moi qui ai été un de ces préparateurs, pas le vôtre, vous allez me dire, c'est peut-être pour ça que vous avez réussi. Pas le vôtre, mais j'étais ici à Bordeaux. Je me souviens avoir donné aussi ce conseil au motif que cela faisait trop bateau et trop réponse toute faite. Or, vous écrivez que vous vous y êtes risqué. Alors, ma première question après cette introduction, vous êtes peut-être un peu longue, mais racontez-nous cette vocation et pour quelles raisons, par exemple, quelques années après avoir intégré la haute fonction publique, vous n'en êtes pas sorti pour devenir, au hasard, un banquier dans une grande banque d'affaires, j'en connais, puis vous en connaissez aussi, je pense, qui ont fait ça en tant qu'inspecteur des finances.
Merci pour cette introduction. Moi, j'ai toujours eu le goût du service public. Alors, c'était un peu un concept, mais plus jeune, j'avais envie de travailler dans un ministère, par exemple. Voilà, j'avais envie de mettre mon temps, mon énergie au service de l'intérêt général. Alors c'est vrai que ça faisait très bateau, mais j'ai persisté quand même parce que je pense que c'était le moteur le plus puissant chez moi. J'avais envie de servir, voilà, de servir, conscient aussi que la République m'avait beaucoup aidé. Vous le dites, bon, je n'avais pas tout à fait une trajectoire pour même m'exprimer devant vous ce soir, et j'avais envie de rendre aussi, voilà, la République qui m'avait beaucoup aidé à avoir un accès aux études, une carrière qui n'était pas écrite d'avance. Donc voilà, j'avais ce goût-là qui ne m'a, je crois, jamais lâché, qui peut prendre des formes différentes. On peut servir l'État, comme je l'ai fait longtemps, s'engager dans des services publics très concrets, comme Pôle emploi, dans lequel j'ai travaillé pendant longtemps. Être élu local, être élu de la République. Tout
ça, ça rentre dans ce que vous appelez la, la défense de l'intérêt général.
Oui.
D'accord. À deux reprises, pages 22 et 48, vous présentez ce que vous appelez le sens de votre livre. Là encore, je vous cite. La première fois, vous dites « Dans le contexte actuel, il est urgent de porter un regard lucide sur notre modèle d'action publique, à la fois sur la réalité de la situation, ses causes, et sur le chemin que nous pourrions emprunter. C'est le sens de ce livre. » Et puis à la fin de votre introduction, donc page 48, « C'est en répondant aux mots MAUX qui rongent notre modèle que nous pourrons rebâtir notre capacité à agir et redonner confiance dans notre modèle démocratique. C'est le sens de ce livre, des constats qu'il pose et des solutions qu'il esquisse. » D'entrée de jeu, vous soulignez qu'il y a une relation entre démocratie et efficacité de l'action de l'État, que vous ne l'écrivez pas comme ça, mais qu'on peut qualifier une relation en tension. Mais vous affirmez que rien ne justifie qu'il faille choisir entre démocratie et efficacité. Hein, je pense qu'on est au cœur de ce qui fonde aussi votre livre. Expliquez-nous ça.
C'est ce que j'essaie de... Bon, moi, j'ai à peu près une vingtaine d'années d'expérience, d'une certaine manière. Et mon propos, d'ailleurs, il sort du moment particulier que l'on vit. On pourrait revenir sur ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Mais quand je regarde le temps long, et c'est ce que j'ai observé ces 20 dernières années, on voit quand même que notre modèle démocratique, il est sérieusement secoué. Il est secoué parce que on le voit progressivement, les citoyens ne se rendent plus aux urnes. On voit tendanciellement quand même la participation baisser très fortement pour des élections locales, je pense les élections départementales, régionales, mais aussi les élections législatives. On voit une coupure énorme entre les élus et leurs représentants. Regardez les dernières enquêtes du CEVIPOF, par exemple. Moi, j'ai été frappé. 75% des Français pensent que leurs représentants sont corrompus. Corrompus, c'est pas rien quand même comme... déconnecté du terrain, de la réalité quotidienne. Et puis surtout, ce qui monte depuis un certain nombre d'années, c'est l'envie d'un pouvoir autoritaire. C'est-à-dire, on dit, mais finalement, alors là, c'est un peu l'acmé de la crise en ce moment, quand on voit ce qui se passe au Parlement, en disant, mais au fond, la démocratie, ça marche pas. Ça marche pas parce que ça ne nous permet pas de résoudre les problèmes du quotidien. On a des services publics très importants, parfois qui nous coûtent très cher et qui ne permettent pas toujours d'apporter des réponses satisfaisantes. On est englué dans une bureaucratie envahissante, de plus en plus de règles. Et donc, il y a une forme de contestation du modèle démocratique. Et si on ne prend pas garde, dans le débat, on dirait, au fond, il faudrait tout balancer pour retrouver de l'efficacité, du bon usage de nos politiques publiques. Et on voit bien qu'on est amené progressivement dans cette impasse où on dit, faut choisir. Soit un pouvoir autoritaire, très fort, soit de l'efficacité, des bons services publics. Et d'une certaine manière, quand on regarde ce qui s'est passé en Argentine, par exemple, avec Milei qui se fait quand même élire avec une tronçonneuse, en disant, vous allez voir ce que vous allez voir.
Qui n'est pas désavoué lors des élections locales.
Et qui a été conforté récemment. Trump, c'est un peu ça aussi. Vous voyez, il met en scène la signature de ses décrets présidentiels. Qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent, on est puissant, on retrouve de la puissance publique. Et nous, les élus, l'action publique au sens large, depuis plusieurs décennies, on voit une forme de rétrécissement de notre capacité à agir. Et donc les citoyens, ils sont assez rationnels, ils se disent, mais à quoi ça sert alors dans ces cas-là? Pourquoi j'irai voter? Puisque souvent d'ailleurs sur les marchés, ils arrivent à dire, mais vous êtes tous les mêmes en fait. Quoi qu'il arrive, vous portez exactement les mêmes projets. Et donc, la thèse que je défends dans ce livre, c'est que la crise démocratique que l'on vit, c'est une crise de l'efficacité de l'action publique. Pas une crise de la représentation. On a régulièrement des débats sur faut-il une proportionnelle, plus de proportionnelle. Vous voyez, l'Assemblée, elle est représentative elle est très représentative de la société française.
Avec un mode de scrutin qui n'était pas forcément...
Et on n'a pas eu besoin de la proportionnelle. Donc, c'est pas une crise de la représentation. C'est pas non plus, je le dis, parce que souvent, c'est avancé dans le débat, il n'y a pas un complot, l'État profond qui empêcherait les élus d'agir. je considère que c'est une crise de l'efficacité. C'est que progressivement, ces dernières décennies, j'y reviens dans le livre, on a un peu démonté tout ce qui faisait une capacité à agir simplement en responsabilité.
C'est le titre de votre, c'est votre premier chapitre où vous parlez d'impuissance publique. Oui. Et en fait, c'est la rétraction du champ politique avec un corollaire qui est l'affaiblissement du pouvoir dévolu aux responsables politiques. Alors, j'ai d'abord, il faut que vous nous expliquiez plus en détail, mais j'ai envie de vous demander les responsables politiques, ils ont été consentants ou pas à ce rétrécissement de leur pouvoir?
Mais on voit, moi je trouve c'est frappant quand on regarde le temps long encore. C'est vraiment, je pense, c'est une réflexion sur le temps long. Il y a plein de champs de la politique publique qui échappent aux élus. Prenez par exemple les questions de l'énergie. Vous avez une commission de régulation de l'énergie qui peut jusqu'à fixer les prix de l'électricité. Là où les élus sont, on est très interpellés. Le pouvoir d'achat.
Qu'a présidé, je crois, une ancienne ministre du gouvernement, enfin de la présidence Macron, Madame Wargon,
qui
s'est retrouvée avec des fonctions qui étaient quasiment ministérielles.
Et qui se retrouve avec une capacité à décider. Donc vous avez des autorités administratives indépendantes qui se sont développées ces 30 dernières années dans des sujets donc de l'énergie, de la concurrence, des transports. Et donc les élus finissent par dire sur un certain nombre de sujets, ben finalement c'est pas moi, je ne suis pas responsable.
Ça, c'est ce que vous racontez, pardon Thomas, sur l'épisode qui a vu arrêter un des plus grands intellectuels français actuels.
Cyril Hanouna, par exemple. Très bon débat.
Alors voilà, c'est l'Arcom.
L'Arcom, très bon débat. On dit Cyril Hanouna, on lui retire sa fréquence. Et alors tout le monde y voit un procès politique. Mais sauf que c'est une décision non pas politique, mais d'une autorité administrative indépendante. Et donc, ces 30 dernières années, on a vu un rétrécissement du champ de responsabilité des élus, qui se retrouvent des fois bien en peine pour répondre du coup aux interpellations des citoyens, et qui sont parfois, et c'est une forme de surenchère, finissent par promettre des choses qu'ils ne peuvent pas atteindre eux-mêmes, parce qu'ils n'en ont pas la responsabilité. Donc on a un double mouvement où on rétrécit le champ de l'action publique, et dans le même temps, ce champ d'action publique, il a été coupé en 1000 morceaux. J'y reviens dans le livre. En fait, on a coupé avec une décentralisation que je considère qui était mal faite. On y reviendra sûrement. Sûr, ouais. Et donc, progressivement, s'est installée dans le pays une forme d'irresponsabilité généralisée. Vous avez beaucoup de mal à avoir des élus en face de vous, en face de nous, qui sont pleinement responsables d'un sujet, d'une politique publique. Et je pense que c'est ça le mal qui nous ronge. Et si les gens se détournent des élections, c'est qu'ils ont parfois face à eux le sentiment, et pas que le sentiment, d'avoir des élus qui ne sont pas pleinement responsables et qui ne peuvent pas pleinement s'engager.
Alors, c'est ce qui vous amène à considérer page 55, au risque de surprendre le lecteur, là encore, je vous lis, que l'action publique est devenue plus complexe, plus lente, et finalement, loin des idées reçues, de l'image de Jupiter, si souvent convoquée pour décrire l'exercice du pouvoir par Emmanuel Macron. Oui. Alors, j'ai envie de vous dire, mais c'est pas pour vous taquiner, que c'est quand même bien la foudre de Jupiter qui vous est tombée dessus en tant que député, même si à ce moment-là vous étiez au banc des ministres. Le 9 juin à 2024 à 20h15, c'est bien Jupiter qui a baissé le pouce.
Non, mais ce que
alors je me trompe.
Ce que je veux dire par là, c'est que souvent on a une fausse représentation de l'action publique. On considère qu'on peut avoir un président de la République, vous citez Emmanuel Macron, ça peut être François Hollande,
oui,
ou Sarkozy. En fait, la capacité...
On parlait d'hyper-présidentialisme.
Oui, mais la capacité, aujourd'hui, je vous mets au défi. Si vous mettez du côté... Si vous enlevez la défense, par exemple, sur quel champ de politique publique les responsables politiques, vous pensez le président de la République, a complètement
des
responsabilités. Mais regardez, je vous donne
mais la Constitution dit le président préside et le gouvernement gouverne.
C'est valable pour le gouvernement. Je vous prends une... Par exemple, on parle beaucoup de politique du logement. Ici, dans notre territoire. Qui est responsable de la politique du logement? Le gouvernement qui définit les règles, le maire qui accorde les permis de construire, la métropole qui définit le plan local d'urbanisme, le département qui peut accorder des aides aux bailleurs sociaux. Mais qui est responsable de la politique du logement? Qui est responsable de la politique d'action sociale aujourd'hui? Vous avez la ville qui a les CCAS, le département qui a les maisons départementales, qui a la politique d'action sociale, la politique du handicap, la région qui forme les travailleurs sociaux, l'État qui définit la politique d'hébergement d'urgence. Donc, en fait, c'est très rare maintenant d'avoir un champ de politique publique où on peut s'engager et obtenir des résultats parce que toutes les responsabilités elles ont été éclatées. Et vous avez une espèce de co-construction généralisée, qui rend l'action publique très lente. Il faut le dire aussi, on est en plein débat, très cher. Parce que vous avez beaucoup d'acteurs maintenant autour de la table. Vous n'avez pas un sujet sur lequel vous pouvez être deux, trois à décider. Vous avez besoin des collectivités locales, des opérateurs, de l'État. Et donc, finalement, vous avez une capacité à agir qui s'est considérablement rétractée. Et c'est pour ça qu'on parle d'impuissance publique, parce qu'elle a été, je considère, ces dernières décennies, un peu organisée, patiemment d'ailleurs, pas patiemment.
Involontairement.
Involontairement, voilà, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Et donc, c'est ça qui s'est passé. Et donc, on est effectivement très lent à agir. Beaucoup plus lent qu'on ne pouvait l'être.
Et que nos partenaires européens, par exemple.
Oui.
Voilà. Alors, on a convenu qu'on ne parlerait pas de la situation politique locale. Et donc, si j'évoque ce point, c'est parce que c'est juste dans le livre. Là encore, vous enfoncez le clou un peu plus loin après avoir dit non, Jupiter n'est pas celui qu'on croit. Vous dites, j'ai d'ailleurs toujours été étonné que les journalistes ou observateurs de la vie politique ne voient pas davantage dans la figure du maire le vrai Jupiter. Oui. Et vous prenez l'exemple d'une configuration que vous connaissez bien depuis l'été 2020, c'est le fonctionnement du conseil municipal de la ville de Bordeaux. J'allais dire jusque dans la mise en scène théâtralisée de la salle du conseil, bon, qui est nettement plus ancienne que 2020, je peux vous l'assurer. Alors vous n'allez pas jusqu'à parler de Pierre Zeus Jupiter Urmic, mais encore qu'on se dit, on a un peu de mal à imaginer Zeus camouflé en vert. Encore que malin comme il était, d'après ce qu'on croit à la mythologie grecque, il aurait pu se déguiser en écologiste pour arriver à ses fins quand il venait dialoguer avec les mortels. Mais vous pensez réellement que le pouvoir des maires est si important et si omnipotent, ou ça c'est un jugement que vous portez parce que vous êtes dans l'opposition?
Non, mais quand on regarde, moi je pense que la figure du maire, elle résiste dans toutes les enquêtes d'opinion.
Oui, tout à fait.
Elle résiste parce qu'elle est encore en situation, des fois sur des sujets concrets, d'apporter des réponses. Et là où je me permets cette parenthèse, c'est que vous pouvez avoir un maire élu avec 46% des voix
et remporter des suffrages exprimés.
Oui.
Et
remporter 70% des sièges.
Ça, c'est le
vous avez une prime majoritaire qui fait que, par exemple, à la différence de ce qui se passe à l'Assemblée nationale, vous n'avez pas besoin, par exemple, d'un 49-3 pour faire adopter un budget. Alors même que vous n'avez pas de majorité dans l'opinion. Donc je pense que la construction du pouvoir local, elle permet d'une certaine manière plus de capacité à agir, même quand on a une configuration politique qui ressemble à ce qu'on peut vivre au niveau national.
On ne va pas démarrer un cours d'introduction à la science politique, mais vous avez un sous-titre de votre chapitre qui est « Réarmer la politique ». Alors vous savez bien, cher Thomas Cazenave, qu'en français, le mot « politique » est un mot androgyne. C'est-à-dire qu'il peut être masculin et féminin. Le politique, dont vous faites partie, on des Anglais disent « politician », ou la politique, c'est pas la même chose. Quand vous dites « réarmer la politique », est-ce que c'est aussi « réarmer le politique », l'acteur politique et le champ politique? Est-ce que c'est les deux genres?
Je pense que la crise que l'on vit, parce qu'on vit, je pense qu'il faut quand même regarder la réalité en face. On vit une crise démocratique assez profonde. Et donc, je pense qu'on ne résoudra pas cette crise par moins de politique. Ce qui s'est passé ces dernières décennies, on a considéré qu'il y avait plein de sujets qui étaient tellement importants qu'il fallait les confier à d'autres. Regardez par exemple la politique monétaire, on a considéré que le politique ne pouvait plus l'exercer, la politique de la concurrence, la politique énergétique, la politique de santé publique. Partant du principe qu'il y avait des sujets parfois trop sérieux d'une certaine manière pour être laissés entre les mains du politique. Et je considère qu'on est en train progressivement, on a tellement affaibli le politique qu'on affaiblit la démocratie. Et c'est normal d'ailleurs parce que le politique il est issu du vote et donc de la démocratie. Et donc il faut redonner cette capacité à agir. Je le dis, on traitera cette crise politique, non pas par moins de politique, mais par plus de politique. Alors, pas de la politique de la même manière. Je pense qu'il faut plus de responsabilité. On y reviendra. C'est de ça dont on crève, entre guillemets, aujourd'hui. Et donc, je considère qu'aujourd'hui, il faut remettre toutes les courroies de transmission politique qui ont disparu. Je parle notamment dans le livre de la place du préfet. Vous y reviendrez, du spoil système. Mais il faut retrouver cette capacité d'engagement. On se présente devant les électeurs avec un certain nombre d'engagements. Et il faut qu'on puisse pouvoir tenir ces engagements. Sinon, effectivement, les citoyens vont se détourner, continuer à se détourner de la démocratie, et peut-être qu'ils trouveront dans une figure autoritaire une figure plus rassurante pour leur, pour tenir les engagements qu'il souhaite que nous prenions.
Alors, c'était justement ma question suivante. Il y a des propositions, vous faites des propositions, des préconisations, comme on dit, à propos dans une note au ministre, qui sont pour certaines audacieuses, et on peut même évoquer une dimension, employer le mot révolutionnaire. Alors, je cite, j'en cite deux, hein, l'instauration d'un spoil système à la française, oui. Donc il faut que vous expliquiez ce que c'est que cet anglicisme, même si c'est largement connu. Ça, c'est, vous employez cette expression, spoil système à la française. Oui. Le plus étonnant, les préfets de région, donc il y en a 17, hein, quand on compte les 13 métropolitains et les 4 outre-mer, vous dites qu'ils devraient avoir rang de ministre et siéger en conseil des ministres aux côtés de leurs collègues en charge des portefeuilles sectoriels. Fin de citation. Et je précise, parce que vous dites plus loin, que vous proposez aussi de réduire le nombre de ministres pleins, comme on dit, à 10, quitte à multiplier les postes de secrétaire d'État en charge de secteurs spécifiques. Alors là, pour le coup, moi, compte tenu de mes études et de ma génération, je me souviens de mes maîtres universitaires qui disaient le préfet, Napoléon au petit pied, création du premier empire, le corps préfectoral. Là, vous politisez carrément le corps préfectoral et vous faites venir les préfets de région au conseil ministre. Vous n'allez pas avec le dos de la cuillère, hein, pardon pour la égalité de l'expression.
Mais aujourd'hui, quelle est la déclinaison territoriale d'une politique publique, d'une politique même tout court, incarnée par un président, un gouvernement? On a une figure du préfet qui est un peu entre les deux. À la fois, il est censé représenter tous les membres du gouvernement et puis il ne fait pas complètement de politique. Il serait tenant de...
Il est représentant de l'État.
Oui, mais représentant de l'État, l'État, c'est pas un mot, c'est toujours une incarnation, l'État. Mmh. Et l'État, c'est une incarnation dans nos institutions, avec un président, un premier ministre, un gouvernement. Et moi, j'ai été frappé par une séquence, si vous voulez. Je pense notamment à la réforme des retraites. Pendant la réforme des retraites, on n'a par exemple jamais vu de préfet organiser des réunions publiques.
Ils étaient occupés à autre chose.
Non, mais jamais défendre une politique publique. Et donc, on voit bien qu'à un moment-là, la parole politique, sa déclinaison territoriale, elle n'existe pas parce que on serait d'une certaine manière ces figures qui sont un peu entre les deux, qui assuraient une forme d'intérêt général, mais un peu abstraite d'une certaine manière, une politique publique un peu abstraite. Et donc, je pense qu'il faut remettre du lien politique. Je considère que les préfets, ils représentent le gouvernement, ils doivent porter la politique publique, d'ailleurs, quel que soit le président de la République ou son gouvernement. Et c'est aussi pour ça que je défends le spoil system. Le spoil system, c'est quoi ? C'est de dire que quand vous avez une nomination d'un gouvernement, tous les directeurs de l'administration, ils sont nommés ou renommés. Ils tirent leur légitimité du pouvoir politique. Ça ne veut pas dire que vous virez tous les directeurs d'administration centrale. Ça veut dire que les directeurs qui sont là, ils sont là pour mener une politique assumée. Sinon, si on ne fait pas ça, vous savez, on laisse prise à une espèce de théorie du complot. Combien de fois j'ai pu entendre dire « Oui, mais il y a, vous savez, au sein de l'État, un État profond... » une forme de conspiration de celles et ceux qui ne voudraient pas avancer dans le sens qu'on voudrait. Et donc, pour aussi, d'une certaine manière, tordre le cou à cette idée qu'on aurait une armée de fonctionnaires qui ne voudraient pas mettre en œuvre ces politiques publiques, je crois qu'il faut assumer le fait que l'administration, elle est toujours au service d'un projet politique. Vous savez, les administrations les plus en difficulté sont celles qui n'ont pas de cap politique. Et on en connaît un certain nombre. Bon. Et donc, moi, je dis, il faut redonner ce sens-là et au sens noble du terme de la politique. Et c'est normal, vous avez des responsables dans l'administration qui ont beaucoup de responsabilités, qui doivent être au service d'un projet politique. Sinon, nous avons un problème de courroie de transmission et de mise en œuvre et donc de respect de la parole politique.
Vous n'avez pas l'impression que, sans que ça soit affiché, cette pratique un peu du spoil system, elle existe un peu à bas bruit. Vous avez été au cœur du réacteur de l'État. Vous savez bien que les nominations de directeur d'administration centrale, c'est rare qu'on prenne un total opposant politique, DG.
Non, mais c'est très au fil de l'eau. Je crois qu'il y aura une forme de clarification. Oui, vous avez des élections, vous avez un président, vous avez un gouvernement, et c'est normal que, d'une certaine manière, ceux qui vont avoir pour responsabilité de mettre en œuvre, ils tirent leur légitimité du pouvoir politique lui-même, le plus légitime. On ne fait pas plus légitime que celui issu des urnes, quand même. Et donc, je pense que ça permettrait une plus grande clarification et surtout une meilleure mise en œuvre des politiques publiques.
Alors, au titre du réarmement, il y a toujours ce que vous appelez la nécessité de lutter contre la crise des vocations, et en particulier la crise des vocations, non pas religieuses, mais des élus locaux. Et vous dites qu'il faut une refonte complète du statut de l'élu, et en particulier au niveau local. Alors, on sait bien que c'est une sorte de serpent de mer qui, de surcroît, compte tenu du vieux fond d'antiparlementarisme français, est pas du tout populaire. Hein. Et là aussi, vous êtes assez audacieux. Expliquez-nous là ce que vous souhaitez, ce que vous proposez sur le statut de l'élu.
Moi, je pense qu'il faut globalement moins d'élus, en fait, dans notre pays.
Moins de députés, vous dites clairement.
On a trop d'élus dans notre pays. Trop d'élus qui ont individuellement pas assez de pouvoir d'une certaine manière.
À peu près 500 000, hein, tout compris. Hein.
Oui, et à la fin, on a beaucoup d'élus qui n'ont pas toujours la capacité à agir. Je pense qu'il y a trop de parlementaires, on y reviendra, ça alimente l'inflation normative. On a des lois, trop de lois, trop d'amendements. Enfin, là, on sort d'un débat budgétaire et des milliers d'amendements déposés par tous les députés. Donc, on voit bien que d'une certaine manière, pour retrouver de la clarté, pour mettre un terme à la surenchère réglementaire, bureaucratique, il faut moins d'élus dans notre pays. Mais par contre, les élus, il leur faut un statut. C'est-à-dire, quand vous êtes engagé, qu'après vous devez retrouver un emploi, comment vous validez les acquis de l'expérience, comment on les forme, comment aussi ils accèdent à un certain nombre de droits. Et je pense qu'il faut avoir ce débat en disant, pour avoir une bonne démocratie, il faut qu'on ait des élus qui aient un statut, qui se sont engagés, qui peuvent se projeter dans la vie d'après. Combien d'élus continuent, le cumul des mandats dans le temps parce qu'ils ont du mal à se projeter sur l'après ? Mais est-ce qu'on reconnaît le travail qu'ils ont accompli ces dernières années? Donc, moi, je crois à la nécessité d'un statut de l'élu, notamment du statut de l'élu local. On a d'ailleurs une loi qui est passée à l'Assemblée en commission des lois, parce que là, je suis membre de la commission des lois. Et donc, je pense que ça va dans le bon sens. Mais il faut assumer le fait qu'on ait probablement moins d'élus, mais mieux d'élus. Et je pense que c'est valable aussi dans les conseils municipaux. Il y a Éric Woerth qui avait été chargé d'une mission sur la décentralisation qui fait exactement la même proposition. On pourrait réduire le nombre de membres dans les conseils municipaux. Et à force d'avoir trop dilué le pouvoir, je crois qu'on a mis beaucoup d'élus en grande difficulté, finalement.
Alors, on vient là aussi à ce que vous appelez dans votre chapitre 3 le partage du pouvoir, qui est synonyme d'irresponsabilité. Oui. C'est-à-dire que c'est un effet induit aussi. Hein, et vous donnez des éléments de comparaison avec nos voisins européens. Et j'ai retenu votre démonstration dans cette phrase. Nos politiques publiques, vous l'avez dit tout à l'heure, Thomas, nos politiques publiques se construisent comme des puzzles de plus en plus compliqués et où la taille des pièces est toujours plus petite. Ce qui aurait pu être imaginé comme une recherche de complémentarité est le plus souvent le résultat d'un yalta politique dans la répartition des responsabilités qui amène sur le moindre sujet un très grand nombre d'acteurs autour de la table à empêcher d'avancer. Alors, vous considérez, je pense, ou alors je vous ai mal lu, que la décentralisation est source d'irresponsabilité, hein, d'usure et d'irresponsabilité. Mais j'ai du mal à vous classer dans les hauts fonctionnaires technocrates et radicalement jacobins. Je ne pense pas que vous soyez, que vous apparteniez à cette
comme je suis
catégorie.
Plus haut fonctionnaire, oui, déjà, ça va être compliqué.
Oui, mais alors, mais radicalement jacobin.
Non, ce que je dis.
Alain Juppé, vous me direz, il y avait de quoi faire pour polir le caractère un peu abrupt. Alain Juppé reconnaît, il le dit assez facilement, que son expérience d'élu local lui a permis d'être un peu plus courbé dans ses bottes.
Mais moi, je suis très girondin. Ce qui ne va pas, c'est pas le principe de la décentralisation, c'est comment on l'a fait. Moi, je cite une anecdote. Moi, ça m'a quand même marqué. Quand vous demandez, par exemple, je parle de ces sujets-là, à un certain nombre de préfets de région, ils m'ont sorti un petit vadémécum. C'est un A3 de 17 pages. Et ils ont sur chacune des lignes de politique publique, en face, quel est le rôle du maire, quel est le rôle de l'intercommunalité, quel est le rôle du département, quel est le rôle de la région, pour s'y retrouver. Mais la réalité, cher Jean, c'est que plus personne ne s'y retrouve dans ce grand tableur Excel. Parce qu'on ne peut pas conduire un projet seul. On ne peut plus conduire un projet rapidement. Et donc, plutôt que faire une bonne décentralisation, moi, je suis favorable à la décentralisation. Par exemple, sur la politique du logement, je pense que c'est une politique qui doit être complètement locale, parce qu'il y a un lien entre le logement, l'urbanisme, l'aménagement de la ville. Et donc, je pense qu'il y a un certain nombre de politiques publiques. En fait, au lieu de faire une décentralisation, je dirais, pure et parfaite, en cédant le pouvoir, que l'État, par exemple, ne se mêle plus d'un certain nombre de sujets, On a laissé des bouts de pouvoir à tout le monde. Et je le dis, pour des questions de Yalta politique, c'est très compliqué, une fois que vous avez donné le pouvoir, de le récupérer. Et donc, comment voulez-vous qu'on arrive à avancer quand il vous faut 17 pages d'un fichier A3 sur toutes les politiques publiques? Je donne aujourd'hui, par exemple, les routes nationales. Ça s'appelle route nationale. Mais les routes nationales de notre pays, il y en a un bout, c'est l'État. Un bout, c'est les intercommunalités. Un bout, c'est les communes. Un bout même, désormais, c'est les régions. Un bout, c'est les départements. Non, mais ce n'est pas possible, en fait. Et donc, je dis juste que ce mouvement qui part d'une bonne idée, c'est-à-dire redonner de la capacité locale, de la démocratie locale, il s'est fourvoyé, d'une certaine manière, dans un puzzle qui n'a plus de cohérence. En fait. Et le problème, pourquoi on n'y arrive pas? C'est parce que derrière, maintenant, toutes ces compétences, on a des, et c'est normal, des élus qui s'accrochent à une partie de ce pouvoir-là. Et donc, on n'y arrive pas, en fait. On n'y arrivera pas au Parlement, on n'y arrivera pas avec le Sénat. Il n'y a qu'un engagement très fort, c'est aussi la thèse que je défends dans ce livre, il faut un engagement populaire très fort, c'est-à-dire qu'il faut un mandat lors d'une élection présidentielle.
On verra, c'est vraiment la fin, c'est votre...
Eh oui, parce que sinon, on ne se sortira pas de cette grande confusion. Et moi, je pense qu'on vit une période de grande confusion des responsabilités qui aboutit à peu de résultats. Et ça nous coûte, je le dis, très très cher, en fait. Pourquoi on dit on n'arrive pas à réduire la dépense publique? Parce que tout le monde est responsable de tout. Il n'y a pas une politique publique, je vous dis, en dehors de la défense... Et de l'éducation, modulo le fait que dans l'éducation, vous avez aussi des compétences départementales pour les collèges, régionales pour les lycées, communales naturellement pour les écoles. Vous n'avez pas une politique publique, vous avez un responsable qui veut se dire devant les Français, je vais m'engager là-dessus et j'obtiendrai des résultats. Parce qu'il n'y a aucune politique publique où il est responsable.
Alors vous avez présidé dans le premier mandat de député, en fait, de juin 22 à juillet 23, la délégation aux collectivités territoriales. Donc, c'est une instance qui est une émanation de l'Assemblée nationale. Hein, voilà. Et vous avez en particulier constaté que les mutualisations, les coopérations, les fusions, ça strictement rien apporté en termes d'économie. Au contraire, vous citez même un chiffre, en France, il a été créé 100 000 emplois nouveaux au niveau des établissements publics de coopération intercommunale, les fameuses EPCI, depuis 2010, alors même, dites-vous, que l'État n'a transféré aucune compétence nouvelle au niveau local. Bon, mais j'allais dire, toutes les études de sciences administratives un peu musclées ont montré depuis des décennies que les mutualisations, ça n'apportait jamais une économie.
Enfin, vous dites ça de manière très assurée. Moi, dans le débat public, quand on dit ça...
On n'a pas les... On ne peut pas avoir les mêmes lectures.
Moi, j'entends pas ça. Quand on veut faire des économies, moi j'entends, on étrangle les collectivités qui n'ont plus les moyens, qui seraient étranglées par l'État, ce qui est assez faux.
Oui, ça c'est autre chose.
Non mais attendez, ce qui est assez faux, ce qu'on regarde, y compris dans notre territoire, les mutualisations ne se sont jamais traduites par des économies.
Ben, on est d'accord.
Parce que les effectifs, par exemple, à l'échelle communale, n'ont pas baissé à mesure qu'on a mutualisé les moyens. Donc
ça c'est une piste qui est fermée.
Non, c'est pas une piste qui... Je vais vous dire, le système qui est le nôtre, où un, on n'a pas de résultats, ou pas les résultats attendus par les Français. Deux, ça nous coûte de plus en plus cher. Regardez le débat aujourd'hui au Parlement. Il n'y a personne qui veut faire des économies, en fait. Il n'y a personne qui est prêt à assumer des économies. Et trois, ce système-là, c'est très important de le dire, est envahissant d'un point de vue bureaucratique. Parce qu'une fois que vous avez réparti toutes vos compétences, chacun y va de son texte, de son instruction, de sa norme. Je prends l'exemple de la viticulture. C'est quand même incroyable, la viticulture. On est très attaché à la viticulture. Les responsables des exploitations agricoles, ils doivent renseigner des informations sur à peu près 57 applicatifs différents. Et quand j'étais ministre en charge des douanes, j'avais été frappé, la déclaration parcellaire, par exemple. Pour un viticulteur, c'est déclarer les mètres carrés de sa parcelle. Alors je m'étais dit, bêtement, mais la parcelle, c'est facile, c'est longueur, fois largeur, et puis ça donne la parcelle. Eh bien non. Quand vous êtes dans les déclarations, les dossiers de la PAC... Quand vous êtes avec France Agrimaire, quand vous êtes avec la profession, quand vous êtes avec la région,
avec les AOC,
vous n'avez pas la même méthode. Non, mais imaginez, nous n'avons pas les mêmes méthodes de calcul de la superficie de la parcelle. Parce qu'il y en a qui prennent le chemin de retournement pour le tracteur et d'autres qui ne le prennent pas. Non, mais parce que chacun est responsable d'un petit bout. Et quand vous êtes responsable d'un petit bout, eh bien, vous mettez vos propres règles, vos propres circulaires, vos propres instructions. Et c'est ça la difficulté. Et ça alimente beaucoup, je dirais, un peu de bureaucratie interne. Parce qu'il faut des gens pour traiter après, derrière. Et donc, c'est là où je dis que le mal qui est le nôtre, c'est d'avoir découpé le pouvoir, en fait. Et d'avoir généré, effectivement, une bureaucratie envahissante. Mais je le dis tout de suite, avec beaucoup de bonne volonté de celles et ceux qui y sont. Les agents publics, l'immense majorité, ils veulent bien faire. Sauf que chacun est pris dans son silo, chacun est pris en pensant bien faire, et c'est la raison pour laquelle, à la fin, par exemple, le viticulteur, il a 57 applications. Et tant qu'on n'aura pas ce débat-là, et on n'acceptera pas de re-répartir les pouvoirs, on ne retrouvera pas de la capacité à agir, on ne réduira pas la complexité dans notre pays, et on ne fera pas d'économie dans notre pays.
Alors c'est pour ça que on entend souvent l'expression « il faut un nouvel acte de décentralisation ».
Surtout pas.
Il faut un acte de clarification.
Moi, je ne suis pas d'accord avec le Premier ministre quand il annonce un nouvel acte de décentralisation. Je dis, c'est pas un acte de décentralisation, c'est un acte de clarification.
Oui, exactement.
De clarification. Mais
vous n'avez pas l'impression que chaque fois qu'on veut simplifier en France, on complexifie 10 fois plus. Chaque fois qu'on veut clarifier, on obscurcit encore.
Oui. Et pourquoi ? C'est une très bonne remarque. Pourquoi à chaque fois qu'on veut simplifier, on n'y arrive pas ? Parce qu'il faut partir du constat qu'il faut traiter la complexité à la source. Si on a autant de normes, si on a autant de réglementations, c'est qu'on a trop de gens en charge de produire des normes et des réglementations. Et je commence par balayer dans mon propre jardin. Il y a trop de parlementaires dans notre pays.
On a compris que vous voulez réduire les têtes de bétail là,
Parce que je dis dans le livre, tant qu'il y aura des hommes, oui, il y aura des normes.
C'est naturel.
Tant que vous avez des gens dans des bureaux ou qui ont des responsabilités, mais ils veulent agir. On peut pas leur reprocher. Ce sont des professionnels. Sauf qu'il faut assumer, de réduire considérablement, je dis, celles et ceux qui produisent des normes dans notre pays, le Parlement, la taille de nos administrations centrales, l'État. L'État, vous savez, c'est désormais, moi je prends souvent l'image, c'est une grosse tête et un petit corps. Il y a beaucoup plus de barreurs que de rameurs désormais. C'est-à-dire, on donne plein. Non, mais c'est la réalité. On donne beaucoup d'instructions. On donne beaucoup de consignes et puis après on regarde qui est là pour mettre en œuvre. Il y a beaucoup de moins de gens, ou alors ceux qui sont encore sur le terrain, c'est difficile pour eux. Donc il faut assumer une cure d'amaigrissement. Je le dis, moi je suis arrivé à cette conclusion là. Alors j'étais pas très, je cherchais d'autres pistes, mais je suis arrivé à la conclusion que si on n'est pas beaucoup plus drastique sur la réduction de la taille de nos administrations centrales, de nos ministères, mais aussi du nombre de parlementaires qui produisent des propositions de loi, des normes, des amendements, on n'y arrivera pas, en fait. Donc c'est ça. Et comme c'est très compliqué à faire, je considère que c'est une réforme d'ampleur qu'il faut porter.
Qu'est-ce que vous pensez du projet Borloo, c'est pas dans le livre forcément, mais sur un fédéralisme à la française?
Alors il se trouve que j'en ai parlé avec Jean-Louis Borloo, parce qu'on a je pense qu'on partage un peu le même diagnostic, oui, sur la difficulté maintenant d'agir de manière très concrète. Moi, je suis très attaché à l'unité du pays républicaine. D'accord. Mais en revanche, ce que je souhaite, c'est qu'il n'y ait plus que un responsable par politique publique. Et ce qu'on observe un peu dans le modèle allemand, d'ailleurs, c'est qu'à un moment, il y a des politiques publiques, soit c'est les Länder, soit c'est l'État fédéral. Et donc, moi, ce que je souhaite, c'est un moment de clarification, où il n'y aurait plus qu'un seul élu ou une institution derrière chaque politique publique.
Avec une fiscalité qui serait dévolue aux entités décentralisées.
Alors c'est marrant, c'est vraiment la passion française pour la fiscalité. Il n'y a pas un débat qui ne se traduit pas à la fin par quand même on va regarder ce qui se passe sur les taxes et tout ça. On peut le faire sans modifier la fiscalité. On pourrait avoir un acte de plus grande liberté fiscale. Bon, moi par exemple, je veux dire, sur la taxe foncière, il y a un débat là, qui est monté en disant qu'est-ce qui se passe. On va revoir le montant de la taxe foncière. Moi, je suis prêt à laisser l'intégralité aux communes. Après tout, c'est le maire et les intercommunalités qui récupèrent le produit de la taxe foncière, qui choisissent l'évaluation des biens, etc. Donc, par contre, le sujet, c'est prendre politique par politique et se demander si l'État a encore une responsabilité dedans. Et ensuite, au niveau local, de choisir un seul pilote. C'est pas normal qu'on soit aussi nombreux derrière les rubans des inaugurations. La réalité. Il y a beaucoup trop de monde. Il y a beaucoup, beaucoup trop de monde. Parce que tout le monde tient un petit bout du projet.
Du ruban.
Mais oui, mais pourquoi il est là? Il est toujours légitime. Alors, le député essaie de se frayer difficilement une place, d'ailleurs, souvent.
Surtout qu'on lui supprimé sa réserve parlementaire.
Oui, donc, voilà. Bon. Mais au-delà de la boutade, ça traduit quoi? Ça traduit qu'il n'y a pas un projet qui sort. Je cite dans mon livre une anecdote. J'ai voulu aller visiter travaux de la halte ferroviaire au Bouscat avec le président de la commission de développement durable au moment du RER métropolitain. J'ai d'abord appelé, je m'étais dit, la SNCF qui faisait le chantier. On m'a dit, ah ben non, il faut appeler SNCF Gare et Connexion, c'est une gare. J'appelle SNCF Gare et Connexion. On me dit, ouais, mais attention, la maîtrise d'ouvrage a été déléguée à SNCF Réseau. Il faudrait appeler SNCF Réseau. Alors j'appelle SNCF Réseau pour avoir l'autorisation d'aller sur le chantier. Alors SNCF Réseau me dit, ah ben attention, parce que je le fais avec un cofinancement. Il va falloir demander l'autorisation de la région qui cofinance, appelle la région. Alors on finit par avoir, y compris de la métropole, on finit par avoir toutes les autorisations. Et là, on me dit, mais attention, monsieur Cazenave, la halte ferroviaire est dans un espace, le chantier métropolitain. Donc, pour accéder au chantier, vous allez traverser un chantier de la métropole. Il faudrait l'autorisation du président de la métropole, Alain Ziani, qui me l'a donné, bien évidemment. Et vous imaginez le truc, quand même. Et donc, je pense que ce sujet-là, on manque un peu de pragmatisme et de simplicité dans l'action, était en train de nous envahir complètement. Et maintenant, je le dis avec un peu de gravité, parce que je le pense sincèrement, de menacer même notre édifice démocratique. Parce que les Françaises et Français, ils ont bien compris ce problème-là. Souvent, on me dit, mais attends, mais ton truc, c'est un sujet de techno, ça n'intéresse personne. Mais je dis, mais sauf que je pense que c'est le mal qui nous ronge.
Par certains côtés, j'ai retrouvé dans votre livre, alors prenez-le comme un compliment, des passages d'un livre très connu d'Alain Perfit dans les années 70, s'appelait Le Mal français, qui était aussi très inspiré, on y reviendra d'ailleurs, des travaux de Michel Crozier sur la société bloquée. Hein. Parce que, vous, à propos de la refondation de l'État, c'est votre sous-titre, hein, refonder l'État, vous pointez du doigt, vous mettez le doigt sur une dimension qui est sans doute très complexe et que je qualifierais de culturelle au sens ethnologique du terme. Vous dites par exemple la logique du toujours plus, ça c'est une espèce d'approche un peu de la culture du toujours plus, au détriment du toujours mieux.
Oui.
Et vous dites la dépense écrase tout débat. Oui. Vous estimez que cette logique de dépense fait que quand un ministre, par exemple, annonce un plan, vous dites, si c'est en dessous d'un milliard, ça n'imprime pas, oui, ça n'intéresse personne. Voilà, hein, espèce de dictature du milliard. Alors, pour autant, il y a une semaine, à votre place, il y avait Philippe Martinez, ancien numéro 1 de la CGT, avec qui j'ai échangé, et qui dans son livre, rapporte son premier échange avec Emmanuel Macron, qui était à l'époque ministre de l'économie et des finances. Vous étiez au cabinet d'Emmanuel Macron à ce moment-là, donc ça doit être vers 2015. Et c'est sur un plateau télé, c'est la première fois que Martinez faisait un débat télévisé. Et après avoir entendu un brillant exposé du ministre de l'économie et des finances sur la nécessité de dépenser mieux, Martinez a évoqué sa visite le matin dans un EHPAD, où là, manifestement, le personnel n'avait absolument plus de moyens, avait été sous une pression terrible, et que par exemple, il fallait quand même bien réinjecter des moyens dans ces secteurs extrêmement en tension, comme l'hôpital, les résidences pour personnes âgées, etc. Vous pensez qu'on peut réussir à faire mieux sans avoir quand même des moyens supplémentaires?
Mais oui, mais moi je pense que c'est le drame, ce que vous venez de dire, c'est le drame du débat public national. On a l'impression que c'est un peu facile. En fait, il y a le camp du bien et le camp du mal. Si on aime le service public, bah alors il faudrait dire qu'il faut toujours plus de moyens. Et quand vous dites, ah bon, on pourrait peut-être dépenser l'argent un peu mieux, alors vous n'aimez pas le service public, ou alors vous préparez une cure d'austérité dans une dérive néolibérale. Je dis qu'on a 58% de dépenses publiques dans notre pays. On caracole en tête en Europe et dans le monde. Et si on n'est pas capable de dire, bah attendez, on n'est pas toujours obligé de dépenser plus pour faire un meilleur service public, je veux dire, ça sera une course folle. Et de toute manière, notre modèle ne sera pas financé. Et je dis juste que comme on n'a pas, mais tout ça est lié. Comme on n'a pas de responsable, la seule manière d'agir, c'est de promettre un peu plus d'argent. Et donc tout le monde y va. Les mêmes qui sont co-responsables disent, ben moi je vais rajouter, parce que je crois à cette thèse-là. Par exemple, si je crois à la transition écologique, alors il faut que j'annonce 1, 2, 3 milliards de plus pour la transition écologique. Et je trouve juste que le débat politique a complètement oublié la question des résultats, en fait. Ben, de l'efficacité. Il y a des choses qui sont efficaces, des choses qui ne sont pas efficaces. Des fois, on peut mal dépenser l'argent public. Et on a l'impression que dans le débat public, on n'arrive pas du tout à avoir ce débat-là. Quand vous regardez le niveau de dépenses publiques dans notre pays, on devrait tous être très, très satisfaits de nos services publics. Mais ce n'est pas le cas. Donc, il y a bien un truc qui ne va pas. Et donc, oui, on ne dépense pas bien l'argent dans notre pays. Voilà. Et le problème, je vous le dis, on est bien seul. y compris quand il faut parfois faire des économies, parce que dès que vous dites on veut faire des économies, on dit vous êtes un ennemi du service public. Et tant qu'on n'aura pas dépassé ça, bon, on n'y arrivera pas. Voilà. Donc moi, je pense qu'il faut réinvestir la dimension des résultats. On dépense de l'argent public pour faire quoi ? Pour avoir quel type de résultats sur le plan éducatif, sur le plan du régalien, sur le plan de la santé. La santé, c'est quand même problématique. On n'a jamais autant dépensé dans notre pays pour la santé. On n'a jamais autant dépensé pour l'hôpital public dans notre pays non plus. Donc il faut peut-être se dire, il n'y a peut-être pas qu'un problème d'argent dans l'hôpital public. Il y a peut-être un problème d'organisation, il y a peut-être un problème d'organisation entre l'hôpital et la médecine, de l'hôpital lui-même. Mais tant qu'on n'acceptera pas ce type de débat-là, on n'arrivera pas, je le dis ici, à résoudre le problème qui est en débat aujourd'hui, notamment à l'Assemblée, celui du déficit public et de la dépense.
Il n'y aurait pas un petit problème, par exemple, de surcharge des gestionnaires, des évaluateurs, oui, au détriment des gens qui soignent, comme mais dans l'enseignement supérieur, il y a une surcharge ceux qui répondent à des enquêtes de l'administration centrale plutôt que d'enseigner. Il n'y a pas un petit ce problème-là
dans tous les secteurs. Et j'ai la chance, j'ai l'honneur en tant que député, en tant qu'élu, de voir beaucoup de gens. Tous me décrivent exactement la même chose. Des architectes qui travaillent à Bordeaux, des universitaires qui répondent à des appels à projets, tous me disent on est écrasé par une forme de bureaucratie qui s'est installée dans notre pays. Tous. Et donc, oui, ça demande énormément d'énergie, énormément d'argent et du monde. Et quand je dis il finit par y avoir plus de barreurs que de rameurs, c'est ça. Et donc, sauf que pour le traiter, comment vous faites ? Vous n'allez pas dire ça suffit, arrêtez d'envoyer des instructions. Il faut réduire les effectifs qui sont consacrés à ces missions-là, que ce soit au niveau central, que ce soit au niveau local, y compris dans nos collectivités territoriales.
Il y a un projet, enfin une proposition que vous faites que j'ai trouvé là aussi assez audacieuse, c'est le budget vert. Le budget vert sert précisément à sortir d'une approche qui serait celle d'une ville sans dette, mais qui n'entretient en rien ses réseaux, par exemple, à laisser grossir une dette climat importante. Le budget vert sert à encourager les politiques les plus vertueuses. En lisant ça, j'ai pensé au fameux Zeitenwende de Olaf Scholz, le changement d'air à l'échelle des Allemands, vous savez, en matière de défense, ça, c'est le grand retournement des Allemands. Vous êtes un fervent partisan du budget vert. Il faut que vous nous expliquiez ça, quand même.
Le budget vert, je l'ai défendu comme député, puis comme ministre, puisqu'on l'a mis dans le budget 2024. C'est de dire quelle est la part de notre dépense qui contribue à la réduction de notre empreinte climat. Parce que je considère que c'est un chantier colossal et c'est une préoccupation qu'on doit tous, j'allais dire, avoir en tête. Mais c'est aussi la question de est-ce qu'on dépense bien, en fait. Et il sert à ça, le budget vert. Et est-ce que toute dette est inutile? Non. Il y a de la bonne dette et de la mauvaise dette. J'ai dit, il y a des collectivités territoriales qui ont zéro dette. Mais si elles n'ont ni entretenu leur réseau, ni rénové leurs écoles, ni investi sur, par exemple, des équipements sportifs qui vont bénéficier aux générations suivantes, alors ce n'est pas une bonne gestion. Quand vous avez une dette, mais qui correspond à des investissements qui vont bénéficier aux autres générations, alors la dette, elle est acceptable. Certains, par exemple, s'endettent pour acheter un appartement. On dit que c'est de la bonne dette. Le problème, c'est est-ce que la dette, elle nourrit cet investissement-là ou elle est là pour faire des dépenses de fonctionnement qu'on n'arrive pas à boucler. Donc, toute la logique du budget vert, c'était essayer d'instiller aussi dans le débat une réflexion sur est-ce que la dépense, elle est toujours utile ? Est-ce qu'elle est à bon escient ? Et en l'espèce, est-ce qu'elle nous permet, par exemple, de nous attaquer à la question de la transition écologique.
Alors vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez choisi un beau titre pour un chapitre qui est inspiré du remarquable film de Franz Hiedemann, Tant qu'il y aura des hommes, 1953, avec Montgomery Cliff et Deborah Kerr, c'est quand même pas rien, et qui raconte les quelques jours avant l'attaque japonaise du 7 décembre 1941 à Pearl Harbor. Mais vous ajoutez, tant qu'il y aura des hommes, il y aura des normes, vous l'avez dit. Ah oui. Et vous écrivez, page 133, normer et dépenser sont devenus, non pas les deux mamelles de la France, mais les deux faces d'une même pièce, des symptômes de l'impuissance de l'action publique. Vos chiffres sont impressionnants. En 2022, le journal officiel compte 14 500 pages sur l'année 2022, contre 2000 dans les années 50. Et comme ce ne sont pas les résultats du Quintet Plus qui ont augmenté la pagination du journal officiel, on comprend que vous appelez un emballement normatif. Mais quand même, c'est pas nouveau, le connaissez le père Henri Lacordaire, sermon en chair à Notre-Dame de Paris, 1848. Entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, entre le maître et le serviteur, c'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit. Les normes, elles ont quand même leur fonction.
Non, mais qu'on ait besoin de loi dans notre pays, je pense que...
Vous n'êtes pas anarchiste, on a compris.
Je crois, bon. Bon. Mais je pense que tout le monde a maintenant bien conscience que le niveau de réglementation dans notre pays finit par se retourner contre lui-même. Parce que d'abord, le nombre de lois et de règlements qui ne sont pas respectés. Je veux dire, on est dans une forme d'acte normatif déclamatoire, quoi. Alors on fait des normes, on fait des règles, en pensant d'ailleurs que ça se va mettre en place tout de suite, ce qui est rarement le cas. Moi, je rêve d'un Parlement qui définisse de grands principes généraux de droit, qui solidifie notre état de droit, qui l'adapte par exemple aux défis de notre temps. Quand on inscrit par exemple la protection de l'IVG dans la Constitution parce qu'on pense que le contexte a changé, on est dans notre rôle de législateur. Mais quand on va faire jusqu'à des propositions de loi sur la discrimination capillaire, je pense qu'on s'égare, en fait. Je pense qu'on s'égare. Alors que bon, voilà, je pourrais être concerné d'une certaine manière. Bon.
C'est pour ça que...
Ouais, donc vous voyez. Et je pense qu'on va beaucoup trop loin. On finit par normer, y compris sur des points de détail de la vie de tous les jours, de la vie de nos entreprises, associations, de la vie de tous les jours. Et je pense qu'on s'égare d'une certaine manière et on ne rend service à personne. Voilà. Et je pense que c'est juste la traduction du fait que pour exister, avec des élus qui ont été un peu dépossédés, dont ils ne sont pas toujours pleinement responsables, c'est une manière de dire, regardez, un parlementaire, qu'est-ce qu'il fait pour démontrer qu'il agit ? Ben, il dépose des amendements. La faute à tout l'écosystème, parce que du coup, on suit les stats des parlementaires.
Oui.
Et si vous déposez pas plein d'amendements, on dit, mais qu'est-ce qu'il fait le parlementaire, là? Il dépose pas plein d'amendements, il fait rien. Moi, je dépose très peu d'amendements, d'ailleurs, j'en suis désolé, parce que je pense que, pour beaucoup, ça ne sert à rien. Voilà. La dépense, c'est pareil. J'aime le sport, alors je dépose des amendements pour augmenter le budget sport. J'aime la santé. Ben oui, tout le monde aime la santé. Alors je dépose des amendements pour défendre la santé. Et donc, on est tombé, je considère, dans cette spirale inflationniste qui se traduit tous les jours, honnêtement, tous les jours, les gens me parlent de cet enfermement normatif. Maintenant.
Il y a un autre...
Et bureaucratique.
Un autre exemple que vous prenez en parlant de vous, justement, c'est sur la question de l'orientation scolaire et universitaire. Ça rejoint un peu notre début d'échange. Alors, vous dites que vous avez fait un co-rapport avec vous avez été co-rapporteur, pardon, je vais y arriver, oui. d'un rapport pour l'Assemblée nationale avec un collègue député LFI, Hendrik Davy. Alors, on ne sait pas le fait qu'il ait eu une mauvaise fréquentation.
Il a été crossé.
Il a fait partie des 6 ou 7 qui ont été sanctionnés par Jean-Luc Mélenchon en 2024. Notre ami François Dubé, expert reconnu de la sociologie de l'éducation, dit souvent que l'orientation scolaire et universitaire en France, c'est un vaste et généralisé délit d'initié. C'est-à-dire que si on n'est pas au fait des choses, on s'en sort pas. Pourquoi vous dites que c'est une politique publique sans cap, l'orientation ?
Non, mais je prends l'exemple de ce qu'on a fait. Alors, vous savez qu'au Parlement, il y a un élu de la majorité de l'opposition. Donc, on choisit pas sa contrepartie, d'une certaine manière. Donc, je me suis retrouvé à faire ce rapport avec un député de la France insoumise, dont, honnêtement, tout nous sépare. Il voulait supprimer Parcoursup. Et à la fin, on a quand même signé un rapport commun. Commun, alors que vraiment, on a beaucoup, beaucoup de désaccords. Et je dis juste, je pense qu'il faut que le Parlement retrouve sa place de contrôle et d'évaluation des politiques publiques.
Oui, c'est 2 missions, vous dites.
Oui, parce que honnêtement, on se fourvoie à produire autant de règles, de normes, d'amendements. Et cette mission-là, vous voyez, par l'orientation, je considère que c'est une politique publique. Il n'y a pas besoin de normes, il n'y a pas besoin de règles, et il n'y a pas vraiment besoin de beaucoup d'argent. Et pour autant, cette politique d'orientation, elle ne tient aucune de ses promesses. On laisse les enfants et leurs familles, je rappelle les statistiques dans cette mission, pour beaucoup seuls face à l'arrivée de Parcoursup, qui peut avoir des impacts très déterminants, et on n'a pas préparé toujours notre jeunesse à faire ces grands choix. Je dis, voilà une politique publique qui n'intéresse personne. Honnêtement, ce rapport qu'on a rendu, il n'a pas intéressé grand monde. Je trouve que c'est plus intéressant que de commenter les milliers d'amendements qui arrivent dans le débat budgétaire. Voilà, je pense que le Parlement, il doit être remis dans cette fonction de garant des résultats, parce que Nous sommes la voix des citoyens. Et moi, je pense qu'au fond, on doit autoriser un gouvernement à gouverner, lui donner un budget. Bon, j'espère, on verra. Et après, le contrôler. Parce que qui est le garant des résultats? Je pense c'est au Parlement. Et ça éviterait aussi cette surenchère en termes de normes et de législation.
Vous dites, page 172, qu'il est faux de répéter comme une forme de mantra cette phrase « Les agents publics seraient par principe opposés aux évolutions et aux réformes ». Alors, vous avez dit 20 ans d'années d'expérience et de vécu au cœur de ce qu'on appelle l'appareil d'État. Moi, ma modeste expérience aussi dans l'enseignement supérieur, mais bien plus longue que vous, moi j'en ai vu passer certaines réformes qui étaient absolument surréalistes, qui relevaient directement de la blague de Coluche. Le technocrate, c'est le gars à qui tu files le Sahara, 3 ans plus tard, il faut racheter du sable, hein, quand même. Ça, 45 ans, c'est une caricature. Enfin, ça a quand même le mérite de le dire qu'il y a certaines réformes qui ont un côté un peu délirant, vous le savez bien, non?
Non, c'est pas du tout ce que je dis dans le livre. Je dis juste que moi j'ai été frappé du fait que beaucoup d'agents publics souffrent de l'organisation actuelle, en fait. Souffrent de ce truc-là, où c'est très compliqué. On ne sait pas qui est responsable de quoi. Ils ne comprennent pas le sens des instructions ou des orientations qui sont données. Et je dis juste que ce système organisé d'irresponsabilité, les premiers à en souffrir, c'est eux. Et souvent, je cite une expérimentation, ce qu'on avait lancé avec Édouard Philippe, on avait lancé une grande démarche à Cahors.
Oui.
On est allé voir tous les agents publics d'un département avec le Premier ministre. Je lui ai proposé cette méthode. Je lui dis, laissons les faire. On va leur donner carte blanche et vous allez nous dire comment on peut faire pour que ça fonctionne mieux un certain nombre. Ils sont arrivés avec des propositions assez révolutionnaires. Par exemple, ils ont dit, je ne comprends pas pourquoi on a des citoyens qui passent d'un guichet à l'autre sur le champ social. On pourrait réunir tout ça, on pourrait avoir un seul fichier, on pourrait plutôt que les aides sociales soient éclatées entre... Bah, ils ont des propositions parfois très, je dirais, de bon sens, pragmatiques. Et qui s'y oppose? C'est souvent la tête. C'est parce qu'à la fin, on se retrouve avec les silos, des ministères, des agents. Donc je dis juste que ne pensons pas qu'il n'y a pas de volonté d'agir, de volonté de faire mieux, de volonté de réforme. Et souvent, les agents publics qui sont le plus proche du terrain, eux, ils sont porteurs de réforme. Mais que notre organisation actuelle, où on a réparti le pouvoir, les empêche d'agir. Et donc moi, je pense que ce livre, c'est aussi un livre plein d'espoir. C'est que moi, je suis convaincu qu'on est capable d'y arriver. En revanche, pour arriver à lutter contre cet éclatement des pouvoirs, il faut un mandat populaire.
Et là, vous dites, c'est l'élection présidentielle.
Ah oui.
Le débat de 27, vous évoquez un référendum, mais vous dites, c'est le débat de 27, au suffrage universel, l'élection du président. Vous craignez pas que les mêmes causes produisant souvent les mêmes effets, même si le président sortant ne pourra pas se représenter, la pression extérieure, les circonstances vont faire quelque part que le débat démocratique va être un peu... squeezé en 2027, ou qu'il va y avoir d'autres discussions sur les risques de l'alternance politique, choses comme ça. Vous croyez que ça peut être un vrai débat?
Moi, j'appelle de mes voeux à ce que ce soit le cœur du débat de l'élection présidentielle de 2027, que c'est un vrai sujet.
Dans un instant, vous allez nous annoncer votre candidature.
Non, sûrement pas.
Non.
Je dis juste que ce truc, la réforme de l'État, elle a toujours été vue comme une dimension, un chapitre en plus. J'ai déjà participé à des réflexions programmatiques pour une élection présidentielle. Alors, on parle de logement, on parle de pouvoir d'achat, on parle d'énergie, on dit « Ah, il ne faudrait pas oublier la réforme de l'État. » Ah oui, alors, hop, on rajoute. Ce sujet-là, il est devenu vital pour nous, majeur pour nous. Et je pense que, pour faire le reste, il faut régler ce problème-là. Et on ne peut pas régler ce problème-là avec un président ou un Premier ministre élu qui commencerait plein de réformes, qui dirait « N'oubliez pas à traiter ce sujet-là. » Parce que ça va bousculer les pouvoirs, parce que ça doit rebattre les cartes, parce qu'on doit remettre en question des situations existantes, bah, il faut l'attaquer frontalement. Et pour ça, il faut que les Français le tranchent. Il n'y a qu'eux qui peuvent trancher ça. Ne demandez pas aux élus locaux eux-mêmes de se répartir les compétences, hein, en disant « mais moi, je ne vais pas lâcher ça. Hein. Moi, département, moi, région, moi, métropole, moi, commune. » Non, on n'y arrivera pas comme ça. Donc il faut un mandat populaire. Il faut que les Français, ils tranchent ce sujet-là. Je suis convaincu que les Françaises et Français, ils attendent qu'on avance sur ce sujet-là. Et je le dis souvent, ne laissons pas... Moi, je suis un modéré. Bon. Et je pense que si les formations politiques modérées ne se saisissent pas de ce sujet, d'autres formation politique, d'autres candidats qui arriveront peut-être, dont Cézou, arriveront avec des programmes à la hache. Mais ça s'est passé dans d'autres pays. Et donc moi je dis, c'est pas parce qu'on est modéré qu'on peut pas avoir des propositions en rupture. Et moi j'attends aussi de ce débat en 2027 qu'il porte cette question-là, parce que sinon, d'autres le feront. Et là, pas en respectant l'état de droit, et le principe qui nous est cher, c'est d'un modèle démocratique.
Péril sur la démocratie, refonder l'État, c'est chez Plon, coédition Mola. Oui. Merci beaucoup, Thomas Cazeneuve.
Merci.